Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Notre témoin de ce vendredi, Augustin Dumière ou la puissance des anciens.
Regarde là, Yann. Tu viens de voir l'aigle dévorer Prométhée.
Prométhée?
Oui. L'empernissé Prométhée. Il a ravi le feu du ciel. C'était un dieu. Un dieu comme nous tous. Le dernier dieu de la Grèce.
Regarde, Apollon, Vénus, Vulcain, les trois furies. Hécate, Hermès.
Dans Malpertuis, qui fut adapté la guerre au cinéma, avec Orson Welles soi-même, le grand écrivain du fantastique Jean Rey imaginait qu'après un vaste complot destiné à les faire disparaître définitivement, les dieux de l'Olympe s'étaient retrouvés claquemurés dans une demeure oubliée. Ils murmuraient encore, mais à si bas bruit. Néanmoins, la foi de quelques fidèles les maintenait en vie. Il lui restait à se faire entendre. L'opinion alors demanderait la libération de l'antique Olympe. Marguerite Duras, pitié venue de fond des âges, ne prophétisait-elle pas? Ce que les hommes ont dit d'important, ils l'ont dit déjà en grec. Qui sait, un jour viendra peut-être où Apollon et Hermès recouvreront leur puissance intacte. On pourra parler autrement de la Méditerranée, de manière moins passionnée. Les Grecs offriront à nos discussions un terrain déjà parfaitement balisé, mais neutre, dépassionné. Et, dans la foulée, on pourrait apprendre de nouveau le latin. Cela aiderait peut-être à avoir moins peur des mots et à les remettre en ordre dans nos phrases désarticulées. Dans l'extravagante arène qu'est devenue l'éducation nationale, ils sont quelques combattants à préparer ce revif des anciens. Et ce ne sont pas de vieux schnocks, mais des professeurs rompus au sport de contact. Ambassadeurs des langues qui ne sont plus parlées, ils défendent l'idée qu'elles nous permettraient de mieux nous parler.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et parmi ces missi dominici, Augustin Dumière, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Professeur, après avoir fait normal supérieur, passé l'agrégation depuis quelques 20 ans au lycée Jean Villard de Meaux. Alors dans votre vieille famille du Rouergue, où il ne doit pas y avoir une quantité extraordinaire d'enseignants, ou chez vos élèves tout simplement, mais vous avez toujours voulu faire ça monsieur?
Bon, alors, petite précision, d'abord je ne suis pas un ancien élève de l'école normale supérieure, ça fait partie des nombreux concours que j'ai ratés.
Ah ben c'est bien, mais Emmanuel Macron aussi a raté normale supérieure.
Ben, écoutez, je suis ravi de ce point commun. L'idée de ce métier, c'est vrai qu'au départ, c'était quelque chose qui a priori sur les bancs du lycée Henri IV où j'étais élève, n'était pas forcément la chose auquel mes condisciples rêvaient. Il était plutôt question, vous parliez d'Emmanuel Macron, de rêver d'inspection des finances ou d'autres choses, mais c'est vrai que j'avais un entourage familial pour lequel c'était un métier qui était empli de poésie, alors qui pouvait aussi être épouvantable que charmant. Mais c'est vrai que j'ai eu la possibilité, donc j'ai réussi quand même quelques examens, ceux de Sciences Po, celui d'une grande école de théâtre, et donc l'agrégation de lettres classiques. Et dans ces trois univers qui m'étaient proposés, celui qui m'est apparu le plus nécessaire, le plus ludique, même s'il a ses moments effrayants, c'était la salle de classe.
Parce que vous saute à la gorge la vie de la France réelle, et que c'est un combat à mener.
En tout cas, vous saute à la gorge un certain nombre des problèmes majeurs qui traversent la France aujourd'hui, et je pense dans ces années 2000, plus que jamais.
Alors, vous en tirez des livres de votre expérience d'enseignant. Au fond, c'est une école d'énergie qui vous permet de rester suffisamment en colère pour publier Homère et Shakespeare en banlieue. Maintenant, un petit fonctionnaire chez Grasset.
Il n'y a pas que de la colère, mais bien sûr, vous êtes confronté à un certain nombre de choses au quotidien qui animent votre colère, mais fort heureusement, il y a à travers ces élèves qui viennent faire du grec et du latin, ces élèves qui croient en l'école publique, ces élèves qui souvent n'ont que l'école, matière à des choses beaucoup plus constructives que la colère, même si la colère peut amener effectivement à écrire des livres.
Parce que, au fond, votre but, c'est que la caissière de Carrefour, qui est coincée dans son métier et qui vous confie vos enfants, en soit content.
Oui, c'est-à-dire d'avoir conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en l'école et que on peut aussi améliorer le quotidien d'un certain nombre de personnes en faisant en sorte que ce qui est proposé à leurs enfants soit autre chose que le quotidien parfois assez rude qu'ils sont en train d'affronter. Et c'est, je crois, ce que nous sommes en train de rater, puisque l'école que nous avons bâtie en ce moment est une école plus inégalitaire que jamais, extrêmement injuste, où vous preniez l'exemple d'une caissière de Carrefour, je ne suis pas certain que nous lui donnions l'impression que c'est un espace d'évasion, de liberté et de réussite pour ses enfants.
Ben non, c'est un autre linéaire. Histoire de maintenir votre flamme ou d'entretenir votre colère, tenez, Edgar Faure, ministre de l'Éducation nationale après mai 1968, la suppression de l'autonomie et de la spécificité de l'enseignement du grec et du latin au collège, c'est la résultante d'un mouvement de longue durée.
Toutes les personnes douées peuvent apprendre n'importe quoi. Les sciences, le latin, les lettres, la philosophie, l'histoire, ça n'a aucune importance. La question est de savoir ce que nous produisons comme enseignement typique pour la grande masse, c'est-à-dire à quoi nous appelons les enfants du premier cycle. Pour apprendre le français, il faut d'abord apprendre le français, et naturellement, on peut aussi, si on apprend suffisamment de français, apprendre aussi du latin. Un autre argument énoncé en faveur du latin serait que le latin serait la seule ou la meilleure école de la logique et du raisonnement. J'aime beaucoup le latin, je l'ai prouvé, mais comment peut-on dire que l'école logique du latin est comparable à celle des mathématiques ? Nous devons nous habituer à raisonner en termes d'enseignement de masse et non pas d'enseignement d'élite.
C'est un homme lettré qui parlait, il tenait à dire qu'il connaissait bien le latin et le grec. Vous vous souvenez de la fable ? Le chêne centenaire reconnaît dans la hache de son bûcheron venu l'abattre, le bois de ses anciens rameaux. Alors au bout du compte, après tant et tant d'années de réformite de l'éducation nationale, l'égalité a grandi, l'insertion professionnelle, puisque c'est un des buts principaux de l'éducation nationale, est meilleure.
C'est une question ?
Non, c'est une affirmation que vous allez démentir, bien sûr.
Oui, une affirmation très ironique. Dans ce que disait Edgar Faure, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que on vous dit, il était en train de dire justement que avant le latin et le grec, il y a le français. Aujourd'hui, le latin et le grec sont des matières un peu thérapeutiques, c'est-à-dire que à des élèves qui n'ont pas justement la maîtrise de la langue française, le latin et le grec permettent un rattrapage, c'est-à-dire que moi je vois arriver des élèves en seconde qui souvent se débattent avec le français écrit, mais aussi l'oralité, se battent avec les mots, et le latin et le grec apportent un peu de douceur dans ce rapport aux mots en expliquant justement l'origine des mots, en faisant en sorte que ce soit quelque chose de plus familier, et en plus donne l'impression aux élèves que cette voie d'accès privilégiée aux mots par l'histoire des mots leur appartient, puisque le grec et le latin sont devenus des matières, par la force des choses, un peu marginales. Et c'est vraiment un instrument au service des élèves qui sont démunis, justement, dans ce rapport à la langue française, pour essayer d'être fidèles à ce qui doit continuer de nous habiter, c'est-à-dire cette exigence d'égalité, de justice à l'intérieur de l'école.
Oui, bien alors, vous dites qu'il ne faut pas de prêchi-prêcha, je vous interromps là, donc. Si on parle concrètement, vos élèves ont souvent très peur des mots, c'est ça que vous constatez?
Absolument. La difficulté qu'il y a, et d'ailleurs, c'est ce que disait Jacqueline de Remilly, la violence, l'agressivité, et notamment chez les garçons, vient très souvent dans les classes d'une difficulté, justement, à maîtriser les mots, à être capable, même dans la simple lecture d'un texte, quand je fais lire un texte dans la perspective de l'épreuve de bac, on a l'impression que l'objectif de l'élève est de se débarrasser du texte, parce que ce sont des mots qui ne leur appartiennent pas, que ce soit ceux de Baudelaire ou même de Camus, ce ne sont pas les leurs, et que l'objectif, quand même, et qu'il y ait une familiarité non seulement avec ces mots, mais avec ces textes, parce que notre priorité aujourd'hui, c'est de faire résonner au sein des élèves, dans les têtes des élèves, un certain nombre de textes absolument fondamentaux, qu'ils se soient ceux de Villon, que ce soit ceux de Camus, mais qu'il y ait cette appropriation du texte. Or, comme il y a déjà une étrangeté dans le simple rapport aux mots, on est assez loin du compte. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, le professeur qui a réussi à apprendre à ses élèves à lire un texte, à faire vibrer quelque chose, a réussi une grande partie de son travail.
Et puis, le latin et le grec, ça aide quand même pour l'étymologie. Ici, c'est Madame Veuille-Dillot dans un collège de Bagnolet qui porte le beau nom de Travail.
Salutez Discipouli.
Ave Domina.
Vous pouvez vous asseoir. Qui peut nous rappeler des négociants ce que ça signifie, loup?
Les négociants.
Alors, ça a donné. Négociant, donné... français, tu as raison. Mais essaie d'être plus précis sur la traduction exacte du titre des négociants.
Inès?
Ça veut dire les affaires.
Des négociants au sujet des
voilà,
affaires.
Au sujet.
Alors, vous avez le texte en latin, sa traduction en dessous. Il va me falloir plusieurs lecteurs, alors on va commencer avec Inès.
Con monstrabo, quao in quemque.
Alors il y a beaucoup d'élèves qui ont de grosses difficultés en français. Ils ont des difficultés à comprendre comment s'organise une phrase, ils ont des difficultés à analyser une phrase, et donc on revient très souvent dessus, puisque pouvoir traduire le latin oblige à revoir ces notions en français. Avoir des difficultés en français ou dans d'autres matières n'est pas un obstacle à la découverte du latin, bien au contraire. Leur réaction quand ils comprennent quelque chose, quand un point de langue en français s'éclaire à partir du latin, là c'est un cadeau, c'est irremplaçable.
Facile, inveniati.
Le Y, ça vient de quel alphabet?
Joshua.
Alphabet grec.
Et alors en alphabet grec, attention, c'est quelle lettre le Y?
Upsilon.
Upsilon, très bien.
Upsilon.
Les Romains prononcent le Y comme un U, donc sum. D'accord, et pas sim. Le Y, c'est le I qui vient du grec. Oui, Inès.
C'est comme en allemand. En allemand, c'est Ypsilon aussi.
Alors, on a entendu Madame Veuille-Dillot en classe. Vous êtes assez nombreux. J'allais dire que vous êtes des expérimentateurs. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup le mot expérimentateur qui est souvent utilisé dans l'éducation nationale. Il y a plein d'associations. On parlera de la vôtre, Métis, Nausicaa, le festival de latin grec d'Elisabeth Antebi, que sais-je. Vous avez l'impression d'être des expérimentateurs qu'un jour l'éducation nationale reconnaîtrait?
Je crois que nous avons surtout l'impression d'être des professeurs, c'est-à-dire d'aller de faire ce que doit faire un professeur aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller chercher les élèves, de savoir que comme le concours de recrutement des professeurs de classique n'existe pas, si on s'en va, notamment dans les endroits où travaille Madame Veuille-Dillot, au collège travaille, dans l'académie de Créteil, on ne sera peut-être pas remplacé. Donc effectivement, le professeur aujourd'hui doit occuper le terrain beaucoup plus qu'il ne l'occupait avant. Donc sûrement pas des expérimentateurs. L'expérimentation, c'est un mot assez épouvantable avec le mot projet qui est extrêmement employé dans l'univers de l'éducation nationale. Mais je crois que ça fait simplement partie de notre métier de professeur de lettres classiques aujourd'hui. C'est-à-dire que le public, il faut aller le chercher par la main. Mais je pense que ça peut être vrai aussi de metteur en scène de théâtre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on veut faire vivre quelque chose, il faut montrer qu'il y a un public. Et c'est ce que nous montrons dans un certain nombre de lieux. C'est-à-dire qu'il y a un public, et pas un petit public, pour le grec et le latin.
Tout de même, les projets. C'est bien, les projets. L'autre professeur de physique connaît quelqu'un qui travaille chez L'Oréal et il va nous parler de l'entreprise. Autre projet de plus grande dimension. Monsieur, on va pas aller au cours de grec parce qu'on assiste au tournage d'une émission culinaire. Je vous cite, toujours. Monsieur, on est en train de monter une comédie musicale. Vous venez voir, c'est à partir de...
Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en état. santé.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Augustin Dumière, professeur de lettres classiques depuis 20 ans. C'était peut-être un fantasme au début, c'est devenu une conviction. Et vous racontez cette vie dans un nouvel ouvrage qui s'intitule « Un petit fonctionnaire chez Grasset ». Où, justement, surviennent des élèves qui vous disent « Reine des neiges, monsieur, c'est drôlement bien ». C'est quand même, en effet, le film d'animation qui a eu, je crois, dans l'histoire du cinéma d'animation, le plus de succès. Il faut partir de ce que connaissent les élèves, Augustin Dumière. C'est quand même le simple bon sens.
Absolument. Ces moments sont peut-être nécessaires. Le problème est de savoir à quel moment de la journée de l'élève on les inscrit. Si c'est à la place des cours, dans ce cas-là, on a l'impression en même temps c'est une grande école d'humilité pour le professeur. C'est-à-dire que vraiment, il faut se battre, littéralement, s'agripper à l'élève pour qu'il assiste à votre cours. Parce que sinon, il a tôt fait de dire qu'il est libre dans une conception de la liberté assez étrange, mais que son choix est aujourd'hui donc d'aller assister, plutôt qu'à un cours sur les lettres à Lucilius, à une émission culinaire. Et c'est cette difficulté-là auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Il faut surtout pas se mettre en colère par rapport à ça. Il faut savoir que ça fait partie des règles du jeu. Voilà, il faut éviter d'en vouloir aux collègue qui vous prend l'élève pour le faire répéter la Reine des Neiges en lui disant mais tu te rends compte qu'il y a quand même des choses qui sont fondamentales que l'élève doit connaître, qu'il y va de notre société, de l'identité d'un pays, qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de choses communes et qu'on va pas fonder une société sur la Reine des Neiges. Ça, il faut essayer d'expliquer de façon calme et posée, mais c'est évident aussi que dans un certain nombre d'endroits où il n'y a pas forcément des conservatoires de musique, il n'y a pas forcément des cinémas d'art et d'essai. L'école doit sûrement faire plus. Après, est-ce qu'elle doit le faire avec la Reine des Neiges? Ça, je n'en sais rien.
Mais vous arrivez, vous, d'emmener vos élèves en voyage? J'imagine que c'est hors du temps scolaire. Un film, d'ailleurs, a été réalisé à l'occasion d'un de ces voyages. C'est un film que vous avez signé avec Cyril Imbert et qui s'appelle « Hors classe ». Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon du monde de la fonction publique, ça doit être un jeu de mots, hors classe.
Absolument, la hors classe, c'est notre Graal, c'est là où nous arrivons en fin de carrière. Il y a des professeurs qui guettent de longues années avant d'y arriver, et en même temps, ça décrivait ce que pouvait être, entre guillemets, un rêve d'école, c'est-à-dire ce que doit faire l'école, c'est-à-dire à la fois un dépaysement, aussi une école de volonté dans une certaine mesure, bref, le fait de transporter des élèves au milieu de la crête, en faisant en sorte que l'argent ne soit pas un paramètre, ça doit de pouvoir emmener tout le monde, et qu'ils consacrent des journées entières, sans portable, sans écran, à découvrir un univers, un monde. Ça peut être celui de Knossos, ça peut être les villes vénitiennes de Lacanée ou de Rétimnon, mais en tout cas de les plonger dans quelque chose de dépaysant, ce qui doit être l'objectif de l'école aujourd'hui.
Parce qu'au fond, là, ce que vous leur proposez avec ce voyage en Crète dont on va entendre un écho, c'est, vous insistez sur le mot, un dépaysement. C'est presque une chance d'avoir en face de soi des adolescents avec le portable sur la table, les écouteurs qui pendillent le long des oreilles. On va pouvoir leur offrir de l'exotisme.
Oui, il faut rester très mesuré parce que quand vous êtes à votre 25e remarque de l'élève qui regarde son portable, la chance, vous la voyez pas forcément. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que on arrive à une telle saturation d'écran que le professeur qui arrive avec un livre apparaît comme une sorte de petit prince qui arrive d'une autre planète avec son livre.
Le petit prince doit faire preuve quand même de patience parce que on sent dans l'énergie du dialogue qu'on va entendre un soupçon de colère parfois.
Ce qu'on voit, c'était quoi avant que ce soit en ruine comme ça?
Un palais.
Un palais, d'accord, et qui date de quelle époque?
Du
19e siècle. Avant ou après Jésus-Christ? Tu dis quoi, toi, Nathan?
Moi, j'ai pas noté.
D'accord, mais si tu réponds, ça, c'est sur ces ruines qu'on voit. Non, c'est l'époque minoenne. L'époque minoenne, c'est quand? À peu près.
3400.
103-400. C'est trop loin, 3400. C'est moins entre 2000 et 1400 avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'on est 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est dans cet état-là, si c'était construit au 19e, il aurait fallu qu'il y ait des dingues qui viennent taper avec une hache sur le sang de cuir pour le mettre dans cet état-là, si tu veux.
Hein? C'est l'archéologie du 2e siècle, me
semble. On a dit que la naissance de l'archéologie, c'est quoi l'archéologie?
C'est des fouilles.
C'est des fouilles, exactement. Que la naissance de l'archéologie, c'était au 19e.
C'est ça, en fait, j'ai confondu avec ça.
D'accord, très bien. Donc ne confondez pas tout. Donc là, on visite un palais, d'accord? Comment il s'appelait le précédent palais qu'on avait vu, là, le palais du roi Minos?
Bah, c'était... Knossos.
Non. Vas-y, dis-le petit.
Knossos.
Knossos, très bien, exactement. Ah. Knossos, c'était le premier site qu'on avait vu. On avait vu Knossos comme premier site. On est sur quelle île? La Crète.
Bon, mettre les mots en ordre, on en a parlé tout à l'heure, selon leur nature et leur fonctionnement, c'est pas simple. Mettre les époques en ordre non plus. Il y a un dialogue que j'aimerais que vous nous restituiez, que vous reproduisez dans Un petit fonctionnaire, Augustin Dumière. Alors là, vous êtes avec des élèves qui commencent à dire « nous autres, les musulmans ». Et vous répondez « ça veut dire que tu veux pas qu'on situe la chronologie par rapport à Jésus-Christ ?» Et le dialogue continue.
Oui, c'est avec des élèves des écoles primaires que nous faisons travailler le soir avec l'association Métis. Et je pose la question « il est né quand Jésus-Christ ?» Et il y a une sorte de panique qui s'installe et un élève me dit « nous les musulmans, on ne croit pas en Jésus-Christ ». Et alors je lui dis « ah bon, mais alors vous comptez à partir de quand ?» Une fille dit « de la naissance de notre Dieu ». Un autre a le réflexe de dire « mais Dieu, Dieu, il n'est pas né ». Et donc il commence comme ça à avoir un dialogue qui devient un peu vif. Jusqu'au moment où mes modestes connaissances sur l'islam me permettent de dire que en 622, il y a un événement qui s'appelle l'Égir, d'expliquer ce qu'est l'Égir, ce à quoi l'élève qui était là me regarde avec des yeux exorbités et me dit « mais vous êtes musulman, monsieur ?» Ce qui traduit aussi, voilà, tout ce que l'école peut apporter dans ce domaine.
Mais l'enseignement du grec et du latin, de l'hellénisme et de la latinité, ça permet de parler du monde méditerranéen avec plus de neutralité?
Ça permet en tout cas de mettre beaucoup de choses à distance, c'est-à-dire que quand vous avez le culte de Zeus, d'Aphrodite, vous pouvez tout à fait affronter le regard goguenard d'un élève qui dit « mais ils y croyaient à ces choses-là » et de lui expliquer assez simplement ce que peut... ce qu'il pourrait ressentir si jamais quelqu'un ricanait devant telle ou telle croyance qui habite sa famille, et puis aussi de montrer que le monde grec, le monde romain, est une époque où la Méditerranée était un lieu d'union, un lieu, pas du tout une frontière, au contraire, que le monde romain, le monde grec, ils se construisent de part et d'autre de la Méditerranée, et que c'est intéressant, justement, dans les voyages que nous faisons, de leur montrer à quel point on est passé de ce monde autour de la Méditerranée à une frontière, et qu'à l'époque romaine, le barbare, c'est celui avec lequel nous faisons l'Europe aujourd'hui.
Alors, il y a le voyage exceptionnel, et puis il y a l'activité quasi quotidienne du théâtre, Augustin Dumière. Vous vous souvenez aussi des études que vous avez faites dans ce domaine. Et vous pouvez faire jouer aussi bien Phèdre que Shakespeare, avec, paraît-il, une dilection pour Shakespeare. Ce qu'on va entendre ici, c'est une répétition de « Comme il vous plaira », mais non pas chez vous à Meaux, mais au collège Georges Politzer, encore un nom qui sonne bien la Seine-Saint-Denis, à La Courneuve.
Voici l'histoire de « Comme il vous plaira » de William Shakespeare.
Voici l'histoire de « Comme il vous plaira » de William Shakespeare. C'est l'histoire de Célia et Rosalind.
Nous sommes dans le palais du Duc Frédéric.
Nous sommes dans le palais du Duc Frédéric.
Comment cette émotion-là, elle peut te porter au théâtre ?
Bah, ça peut nous rendre sur la scène un peu plus fort, je sais pas. Ça permet aussi de se livrer un peu. Après, on se met un peu plus dans le personnage.
J'étais sa fille quand vous avez pris le duché de mon père.
Marche, vas-y Maïssa, marche dans l'espace et énerve-toi. Marche, 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 rapide, contre lui. Vas-y Maïssa.
Ne vous méprenez pas autant, Seigneur. Ma pauvreté n'est trahison à rien.
Ok, super, merci. Reprends. Commence à marcher, mais plus vite, tu vas beaucoup trop lentement.
Comment tu te sens quand t'es sur la scène et que Margot te dit « Allez, on joue maintenant ».
On pense pas à ce que vont dire les autres et on fait ce qu'on veut, ce qu'on doit faire. Donc on se lâche. Mais en fait, on se défoule un peu. On dit un peu tout ce qui nous passe par la tête. Et après, on est plus calme. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Ne vous méprenez pas autant, Seigneur. Ma pauvreté n'est trahison à rien.
On s'amuse, on joue. Quand on est sur le plateau, bah... En fait, on doit faire bien, mais sans vraiment le faire bien. Parce qu'il faut prendre aussi du plaisir.
Sur les docs France Culture 2014, Augustin Dumière, c'est pas l'énergie, c'est pas le talent qui manque, mais la régularité, la répétition est une astreinte.
Oui, la répétition est une astreinte, mais en même temps, elle débouche sur quelque chose d'assez extraordinaire. Le moment de la représentation, le moment où tout ce travail de répétition, qui effectivement est l'essentiel du travail quand on se lance dans des projets comme cela, débouche sur un moment assez extraordinaire qui est celui de la représentation. Il y a quelques jours de cela, je suis allé voir des détenus du centre pénitentiaire de Meaux qui jouaient l'Iliade dans un théâtre. Et au moment des saluts, j'ai retrouvé ce que j'avais vu un peu chez mes élèves, c'est-à-dire une sorte de quelque chose de rage qui était de l'ordre de la libération, qui s'exprime notamment au moment des saluts à la fin du spectacle. Je crois que le théâtre permet vraiment de secouer tout ce qui sont des marqueurs encombrants en termes de tics langagiers, en termes d'étiquettes sociales qu'on pose sur vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mesuré au fur et à mesure des répétitions. Parce que la répétition, elle permet aussi à l'élève de s'approprier enfin un texte. La répétition, elle fait le travail du professeur de français, c'est-à-dire que l'élève, il vit, il dort avec son texte, il sait que il y a un moment où il va être avec ce texte sur scène, et le théâtre réussit ce dans quoi nous échouons très souvent, c'est-à-dire être capable de rendre un texte familier, de faire en sorte qu'un élève se l'approprie.
C'est bien de ne pas parler comme on parle tous les jours, et en même temps, de familiariser ce texte au point de dormir avec lui, avez-vous dit. Vous avez parlé de prison, ça va être ma dernière question, Augustin Dumière. Est-ce que vous êtes rendu compte que la prison apparaît comme un horizon possible, très souvent dans vos deux livres, et notamment dans Un petit fonctionnaire qui vient de paraître chez Grasset. Vous êtes un professeur qui vous demandait si tel ou tel de vos élèves, si une bifurcation n'est pas prise à temps, peut se retrouver dans cet édifice que vous longez quand vous quittez votre train de banlieue, la prison.
C'est quelque chose que je raconte d'ailleurs dans Un petit fonctionnaire, c'est-à-dire que il y a effectivement une frontière qui est assez ténue entre celui qui n'est pas méchant et qui fait des bêtises, et qui, c'est un face-à-face que j'ai avec une mère de famille qui en est à sa première garde à vue, et après on sait que la prison bascule dans quelque chose de complètement différent. Donc évidemment, il y a une question qui se pose sur ce que deviennent ces élèves, y compris même ceux qui ont fait du grec et du latin, après l'école. Et je crois que les événements des dernières années nous ont rappelé tragiquement à cette réalité, c'est qu'est-ce que nous leur transmettons, qu'est-ce que nous faisons résonner en eux quand ils peuvent se retrouver dans des univers aussi violents et aussi désespérés que celui de la prison aujourd'hui. Et effectivement, c'est un horizon que j'évoque d'abord parce que c'est l'horizon souvent de mes trajets vers Meaux, les centres pénitentiaires, mais c'est aussi quelque chose qui doit nous rappeler chaque jour à ce que nous devons faire dans une salle de classe. Les élèves sont là, dans une salle de classe, et par conséquent, il est impératif de se poser la question de ce qui va leur rester, de ce que nous leur transmettons. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut avoir aujourd'hui quelques interrogations sur ce qui reste.
Merci à vous, Augustin Dumière. Vous allez reprendre le train de banlieue pour Meaux. Ne soyez pas en retard.
Je ferai en sorte d'être à l'heure.
C'est la première consigne que vous portez. À chaque instant, il y a urgence. Un petit fonctionnaire, c'est chez Grasset. L'émission a été préparée par Eline Canegulesco, avec à la technique Élise Christophe et la réalisation, c'était Valérie Aestaray.